Content d'être là. Je salue tous ceux que j'ai pas pu saluer en arrivant, et puis, enfin, beaucoup de monde puisque j'étais à la louange. Et je vous invite sans plus tarder à ouvrir vos Bibles dans la suite de notre série de lectures. Et donc, ce sera dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 2, 1 Corinthiens 2. Et on va lire les versets 6 à 16. Alors, dans la série qu'on est en train de faire, on a vu la dernière fois que l'apôtre Paul affirmait avec beaucoup de fierté que l'évangile n'était pas un message d'élite réservé à quelques érudits, à des personnes sages, éloquentes ou bardées de diplômes, selon les critères en tout cas de notre culture à nous humaine. Il proclamait au contraire que le projet de Dieu était de sauver le monde par la folie de la croix. Dieu veut, comme ambassadeur, tout le monde, mais peut-être particulièrement les personnes que l'on méprise, que l'on dénigre selon ce monde. Et il semblerait que ce message soit vrai encore aujourd'hui. Dieu rejette la sagesse glorifiée par les êtres humains, qui est aveugle. Et il choisit la folie de la croix à la place. Il rejette la puissance de l'esprit du monde pour choisir la faiblesse de la croix à la place. Il abaisse les orgueilleux et il élève les humbles. Tel est notre Dieu. Mais Paul, dans son message que nous allons lire ensemble ce matin, semble faire un virage. En tout cas, il affirme que, oui, si l'évangile paraît une folie, il est en réalité une profonde sagesse, mais une sagesse de Dieu. Il ne faut pas abandonner la sagesse, ni la raison, ni son intelligence pour être chrétien. La foi nous appelle à ces choses-là, mais pas à celles du monde qui nous entoure. Alors nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 6 à 16. J'enseigne pourtant une sagesse aux chrétiens spirituellement adultes, mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, ni celle des puissants qui règnent sur ce monde et qui sont en train de disparaître. Non, j'annonce la sagesse du mystère, du projet de salut de Dieu caché aux êtres humains. Dieu l'avait déjà préparé avant la création du monde pour nous, et nous y faire participer à sa gloire. Aucun des puissants de ce monde n'a connu cette sagesse. S'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur à qui appartient la gloire. Mais, comme le déclare l'Écriture, ce que personne n'a vu ni entendu, ce à quoi personne n'a jamais pensé, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, oui, c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit peut tout examiner, même ce qui est profondément caché en Dieu. Dans le cas d'un être humain seul, oui, son esprit connaît les pensées qui sont en lui. De même, seul l'Esprit de Dieu connaît les pensées de Dieu. Et nous avons l'Esprit. Et pas l'Esprit de ce monde, nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les dons de Dieu qu'il a accordé. Et nous en parlons non pas avec un langage de sagesse humaine, mais avec celui qu'enseigne l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que nous expliquons des vérités spirituelles aux personnes qui ont en elles l'Esprit. Celui qui ne compte que sur ses faibles facultés sera incapable d'accueillir les vérités communiquées par l'Esprit de Dieu. Elles seront une folie pour lui. Il lui est impossible de les comprendre car il ne peut juger que par l'Esprit. Celui qui a l'Esprit de Dieu discerne, juge de tout, mais personne ne peut le juger. Il est écrit en effet, « Qui a connu la pensée du Seigneur ? Qui a pu lui donner des conseils ?» Mais nous avons la pensée du Christ. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes rassemblés ce matin dans une église, un temple, peu importe le mot. En ce lieu est proclamé ce que nous appelons l'Évangile. Dans le passage que nous venons de lire là, Paul qualifie cet évangile de sagesse mystérieuse. Alors, toutes nos traductions ne donnent pas ce mot mystérieux, mais il y est vraiment, je vous donne quelques exemples. Dans la version Darby, il est écrit « Nous parlons la sagesse de Dieu en mystère, la sagesse cachée, laquelle Dieu avait préordonnée avant les siècles pour notre gloire. » Ou alors, dans la Nouvelle Bible en second, il est écrit « Nous énonçons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, celle que Dieu a destinée d'avance. » Ou alors, dans la traduction œcuménique de la Bible, la Tob, il est écrit « Nous enseignons la sagesse de Dieu, mystérieuse et demeurée cachée, que Dieu avait, les siècles avant, destinée à notre gloire. » Alors, si je vous parle de mystère aujourd'hui, ou de mystérieux, vous allez imaginer quelque chose d'intrigant, comme une enquête irrésolue, peut-être, qui nécessite de l'intelligence, de l'investigation pour être dévoilé, quelque chose qui fascine. À l'époque de Paul, cela avait un autre sens. Il y avait d'autres religions au 1er siècle autour de lui, et certaines étaient appelées des cultes à mystère. Des cultes à mystère. Le culte de Dionysos, de Cybèle, de Mithra ou encore d'Isis par exemple. Et ces cultes avaient comme point commun de garder un savoir caché. Et seuls les initiés avaient accès à ce savoir. Ils devaient passer par des rites, par des formations, par des initiations. Ça pourrait faire penser un peu aux francs-maçons ou à des sociétés secrètes aujourd'hui. En tout cas, ils avaient comme point commun d'avoir ce savoir caché, et ils pensaient, ils proclamaient avoir reçu ce savoir de leur divinité. Donc quelque part, c'est pas pour rien que Paul emploie le mot mystère ici pour parler d'une sagesse qui vient de Dieu et qui est révélée par Dieu. Il s'agit bien d'un mystère dans ce sens-là. Pourquoi ? Parce que n'importe qui ne peut pas percer le mystère de l'Évangile. L'humain naturel, certaines traductions anciennes ont animal, pour dire anima, ça veut dire l'âme, ne peuvent pas percer ce mystère, mais l'humain spirituel qui est animé par les souffles de Dieu, l'Esprit Saint, eux, ce n'est pas qu'ils peuvent percer le mystère, c'est qu'ils ont reçu le mystère. Que faut-il comprendre de cela ? Est-ce que les êtres humains autour de nous ne peuvent pas comprendre le message de l'Évangile ? Ils sont trop bêtes ? Non. Bien sûr que non. Ils le peuvent, intellectuellement, rationnellement, mais ce qui ne se passera pas, c'est de le croire, de le vouloir comme vrai. Ils ne pourront ni ne voudront l'accueillir comme une sagesse, comme une vérité donnée par Dieu. Paul rappelle donc aux Corinthiens que s'il est fier de l'Évangile révélé à tous, et peut-être particulièrement aux simples, aux humbles, aux méprisés, aux rejetés de ce monde, l'Évangile n'est pas pour autant un message simpliste. Il y a tout un contenu de sagesse à y recevoir, sagesse venue d'en haut, à accueillir. Et lui, il dit que les humains complets, dans le sens mature, dans le sens ceux qui ont reçu l'Esprit, peuvent comprendre ce message. On pourrait avoir l'impression que Paul regarde cette communauté chrétienne de Corinthe en disant ben, « Vous êtes top, quoi. Vous êtes des humains complets, parvenus, des matures, puisque vous êtes capables de comprendre le mystère de l'Évangile. » Mais si je pousse un tout petit peu la lecture, je débute le chapitre 3, donc juste après, hein, voilà ce qui est écrit. En réalité, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes matures qui ont l'Esprit de Dieu. J'ai dû vous parler comme à des gens de ce monde, comme à des enfants dans la foi chrétienne. Aïe ! Paul n'est pas en train de dire qu'ils sont des faux chrétiens, non. Il est en train de dire qu'ils sont comme s'ils n'avaient pas l'Esprit. En fait, ils sont immatures. Les chrétiens et chrétiennes de Corinthe n'ont visiblement pas saisi les réalités essentielles de la foi. L'Évangile est un don. Si vous avez été touché par l'Évangile, cela ne vient pas de vous. C'est une sagesse. C'est la sagesse du royaume qui vous habite et que vous comptez comme vrai en vous. Vous n'en avez pas le mérite. Vous avez la responsabilité de les vivre, de les faire grandir. Oui, mais le mérite, non. Alors, ils ne sont pas matures, ils n'ont pas compris et Paul va devoir tout leur réexpliquer. Et peut-être, vous me direz, moi j'ai vraiment l'impression d'avoir choisi Jésus. Je me souviens avoir choisi de croire. Et la Bible nous enseigne à choisir, à porter sa croix, à vérifier avant de s'engager pour le Seigneur. Oui, ces choses sont vraies. Nous croyons qu'il y a ce moment que nous vivons, mais qu'avant de croire, avant de suivre, avant de choisir Jésus, c'est nous qui avons été choisis par Dieu. Comme le Seigneur dit à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Ayant été choisi par Dieu, ayant reçu la foi dans mon cœur, j'ai été transformé. Je vois la sagesse de la croix. Je vois la puissance du salut de Christ dans sa faiblesse apparente. Je vois mon pardon dans sa crucifixion. Comment est-ce que je le sais? Comment est-ce que c'est devenu une évidence, une certitude que ce Nazaréen mort il y a 2000 ans sur une croix, c'était Dieu fait homme? Est-ce que j'ai eu une droit à une démonstration logique? Est-ce qu'il y a eu un faisceau d'invidence où j'ai dit, bah oui, là, franchement, j'ai pas le choix, c'est sans doute vrai que Jésus est le Fils de Dieu. Il y a peut-être eu des choses comme ça qui ont joué. Mais la démonstration que Christ est le Fils de Dieu, cette certitude ancrée au cœur, au corps, c'est l'œuvre de l'Esprit en moi, en vous. Alors, pourquoi moi? Pourquoi moi je crois? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que je vis avec le Seigneur chaque jour? Et mon frère de sang, né des mêmes parents, sous le même toit, avec la même éducation, il s'en fiche. Est-ce que j'ai fait quelque chose, un certain virage, à un moment qui fait que Dieu a dit « Ah ben lui, je le sauve ». Est-ce que j'ai quelque chose en moi qui manque en lui? Non. Ce n'est pas ce qu'enseigne Paul. Dieu s'est révélé à toi. C'est une grâce, c'est un mystère tenu par Dieu. Évidemment, nous voudrions choisir. Nous voudrions être celles et ceux qui décidons. Pourquoi? Mais d'abord, on n'aime pas cette sensation un peu humiliante que notre destin, quelque part, a été scellé par le choix de Dieu. Mais si vous contemplez cette réalité un peu longtemps, vous allez voir que si c'est effectivement entre les mains de Dieu et non entre les miennes, il y a ici un grand repos, une grande assurance. Deuxièmement, pourquoi Dieu n'a-t-il pas choisi tout le monde? Pourquoi laisse-t-il certains s'entêter, s'éloigner? Et surtout, pourquoi est-ce qu'il ne fait rien pour ceux pour qui nous prions? Nous touchons du doigt à nouveau le mystère de Dieu, un mystère entre sa souveraineté, puis cette responsabilité humaine en face. Une zone où tout n'est pas révélé, tout n'est pas limpide, tout n'est pas expliqué, et elle appartient à Dieu. Et cela me brûle parfois de ne pas pouvoir comprendre, pour pouvoir agir en sachant quoi faire, quoi dire. Je n'ai que ce que j'ai reçu. Mais c'est pas rien déjà. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Je suis humilié par le mystère de Dieu. Humilié, mais pas dans le sens écrasé, méprisé. Comme lorsque quelqu'un a un comportement qui me dénigre ou qui me nie. Non, non, il n'y a rien de cela en Dieu. Je suis humilié parce que Dieu me remet à ma place, en face de lui, comme celui qui reçoit et non celui qui donne, comme celui qui accepte et lui qui propose. Moi, je reconnais et c'est lui qui fait. C'est ce que Paul a dit déjà, hein, à la fin du chapitre 1, il écrivait ceci. Ainsi, aucun être humain ne peut faire le fier devant Dieu. Mais Dieu vous unit à Christ et il a fait du Christ notre sagesse. C'est le Christ qui nous rend juste devant Dieu, qui nous permet de vivre pour Dieu, qui nous délivre du péché. Par conséquent, comme le déclare l'Écriture, si quelqu'un veut faire le fier, eh bien qu'il mette sa fierté dans ce que le Seigneur a fait. Je suis humilié. Je suis remis dans une place de dépendance et de reconnaissance envers Dieu. Dieu m'a choisi, il m'a uni au Christ. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi moi ? Alors, comment est-ce que je pourrais faire le fier en disant « Dieu m'a choisi, moi ». Ah oui, et pourquoi il t'a choisi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais alors, ne te la pète pas. Quel regard cela m'amène-t-il à poser sur celles et ceux qui m'entourent et qui n'ont pas l'Évangile encore ? Celles et ceux qui m'entourent et qui n'en ont rien à cirer de la foi. Puis-je encore penser, ils sont bêtes. Non, mais elle a qu'à recevoir le Seigneur aussi. Hein ? Personne, parfois, à qui on témoigne pendant des années et on s'énerve contre elle parce qu'elle s'entête. Hein. Mais est-ce que je crois vraiment que moi, j'ai fait les bons choix ? Que si le Seigneur n'était pas venu me chercher, je ne serais pas moi aussi entêté. Comme le dit Paul, toujours dans 1 Corinthiens, un tout petit peu plus loin au chapitre 4, verset 7, il dit ceci. « Car en quoi penses-tu être supérieur aux autres ? Tout ce que tu as, ne l'as-tu pas reçu ? Puisqu'il en est ainsi, pourquoi faire le fier à propos de ce que tu as, comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Je crois qu'il y a une grande vertu à vivre ici, à laquelle le Christ nous appelle tous. J'ai bien aimé ton témoignage, Estelle, parce que je trouve qu'il va dans ce sens. Être humble et reconnaissant. Être humble et reconnaissant. Oui, cette œuvre de l'Esprit en moi que je n'ai pas vraiment décidée, en fait. Comme on dit, le Seigneur me sauve malgré moi, avec mon plein consentement. Elle m'humilie et en même temps, elle dégonfle tout l'orgueil, tout l'ego. Si on veut le laisser faire, si on veut le laisser faire, qu'est-ce que j'ai à mériter, à prouver, à me comparer aux autres chrétiens ? Un passe-temps détestable que nous avons un peu tous en nous-mêmes. Ah mais oui, mais lui, il prie comme ça. Ah mais oui, mais lui, il a tel don. Ah oui, mais lui, il fait ça et moi, je... Humble et reconnaissant. Ça va très souvent ensemble. De la même manière que ce qui va aussi très souvent ensemble, c'est orgueilleux et ingrat. Nous croyons que le Christ est notre sagesse. Nous apprenons à voir dans la croix, qui est apparemment faible, une puissance. Nous apprenons à croire, à voir dans l'humilité, dans l'abaissement, un chemin de grandeur. Nous apprenons à voir dans le don de soi-même la vraie richesse. Nous apprenons à voir dans la soumission au Seigneur, à l'Esprit, la vraie liberté. Nous apprenons des choses qui, pour le monde, vont paraître complètement stupides, folles, irrecevables, inadmissibles, intolérantes. Et peut-être, pour moi, pour vous, il y a certaines de ces sagesses de l'Évangile qui me paraissent encore heurtantes aujourd'hui ou difficiles. Cherchons le secours de l'Esprit. Cherchons le secours de l'Esprit. Ce sont des sagesses d'en haut. Ce sont des sagesses d'en haut. Comme Jacques le dit, je vais conclure avec ça. J'aime beaucoup ce passage. Jacques 3. Lequel d'entre vous est sage, intelligent ? Qu'il le montre par sa bonne conduite, ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si dans votre cœur une jalousie amère et de la rivalité, ne vous glorifiez pas, ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, elle est terrestre, charnelle, démoniaque. Car là où il y a jalousie et rivalité, il y a du désordre et toute espèce de pratique mauvaise. La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Voilà le Christ qui est notre sagesse d'en haut. Une sagesse humiliante, mais pas dégradante, une sagesse rassurante qui m'appelle à la reconnaissance et à la confiance en Dieu. Alors, que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez aussi en Jésus.